Je suis très content, même si ça n'a pas été simple de trouver une date avec Paul Jorion, pour qu'il puisse venir présenter un certain nombre de thèses qu'il a développées dans un livre dont le titre a suscité au moins la curiosité d'un public assez large, « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Alors, présenter Paul Jorion en quelques mots, ce n'est pas si facile. C'est quelqu'un qui a touché à plusieurs disciplines dans son existence, qui a commencé par travailler comme anthropologue, avec sous la direction ou sous la supervision, il est belge, hein, je l'ai oublié de le dire, il est belge, qui a travaillé comme anthropologue sous la direction de Claude Lévi-Strauss dans les années 60, qui s'est intéressé à certains aspects mathématiques des modèles de parenté ou de parentèle chez Claude Lévi-Strauss. Par la suite, il a eu d'autres expériences à la fois universitaires et extra-universitaires. Notamment, il a fait sa thèse en anthropologie sur les pêcheurs de l'île de Wight en Bretagne, ce qui paradoxalement lui a permis d'atterrir à Cambridge, où il a été enseignant, maître de conférence ou l'équivalent de maître de conférence pendant quelques années. Puis il a fait autre chose par la suite. Il est allé à la FAO, c'est ça, aux Nations Unies. Et là, il a travaillé un peu avec l'Afrique. Il s'est intéressé au milieu à la finance, à la banque. Et il a acquis récemment une certaine notoriété grâce à un livre qui a fait date, au moins dans les médias, « La crise du capitalisme américain », je crois que c'est le titre qui a été retenu par l'éditeur. Un livre qui a eu un succès notamment parce qu'il prévoyait, entre guillemets, prédisait la fameuse crise des subprimes dont nous ne sommes pas tout à fait sorti, mais ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, puisque parallèlement à cette période, il s'est interrogé, je dirais, comme anthropologue et comme philosophe de la culture, ou comme philosophe, à cette question qui intéresse les élèves de classe préparatoire commerciale, mais aussi littéraire, à savoir la question de la vérité et de l'invention de la vérité, sous-entendu dans le monde grec, et de la réalité objective, ou de ce qu'on a appelé par la suite la réalité objective, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, à la Renaissance et au début des temps modernes. Voilà, je vais lui passer la parole maintenant pour qu'il puisse à la fois présenter ses thèses ou et peut-être revenir sur certaines d'entre elles pour les critiquer ou les ajuster.
Oui, merci. Alors, une réflexion, il faut dire d'abord que Gallimard n'était pas du tout enthousiaste pour un titre, c'est beaucoup trop long, il faut quelque chose de plus parlant. Et moi j'avais appelé ça comme ça, et voilà, ça a fini par s'appeler comme ça, parce qu'on n'a pas, ni Marcel Gauchet, ni Pierre Nora, n'ont pu trouver une meilleure suggestion sur la manière dont il faudrait l'appeler. Et en fait, moi je ne voyais pas a priori de raison d'appeler ça autrement, parce que c'était effectivement une recherche qui s'était fondée sur une réflexion sur ce que nous appelons la vérité et ce que nous appelons la réalité. Ce qui m'avait intéressé, c'était le fait que, à partir d'une réflexion d'anthropologue, il m'était apparu très clairement que ces deux notions qui nous paraissent de l'ordre tout à fait de l'évidence. C'est évident qu'il y a des choses qui sont vraies, qu'il y a des choses qui sont fausses. C'est évident qu'il y a des choses qui sont réelles et des choses qui ne le sont pas. Ce sont des notions qui apparaissent comme une seconde nature dans notre culture. Nous sommes convaincus que ce sont des notions non problématiques, que ça ne pose aucun problème. C'est évident. Ça relève de l'évidence. Et en fait, non, ces deux notions sont apparues, en fait, à des moments précis de notre histoire, et elles ont donné lieu à des débats considérables sur ce que ça voulait dire la vérité, ce que ça voulait dire la réalité. Et nous avons la chance, parce que nous appartenons à une culture qui est une culture lettrée, qui a gardé des traces, pas toutes les traces, il y a des choses qui se perdent, mais qui a gardé les traces d'une grande partie des débats autour de ces notions de vérité, de réalité. On parle beaucoup de vérité chez Platon, on parle beaucoup de réalité dans le procès qui est fait à Galilée, beaucoup plus tard. Mais ce sont donc des choses qui sont que nous pouvons aller voir. C'était, j'oublie son prénom, mais un philosophe de l'astronomie, un historien de l'histoire de l'astronomie, Simon, c'est son nom de famille, mais j'oublie son prénom malheureusement, qui, ayant écrit un livre sur Kepler, astronome-astrologue, ou astrologue-astronome, avait posé la question, pourquoi aller chercher des faits étonnants de ce que nous appelons de la mentalité primitive, pourquoi aller les chercher très loin, alors disait-il que ça se trouve sur les rayons de nos bibliothèques. Ce qui m'a conduit personnellement à une recherche de ce type-là, c'est deux choses. C'est d'abord la découverte du personnage d'Aristote, et ensuite un travail qui m'avait été suggéré par mon professeur à Cambridge qui s'appelle Edmund Leach. Et tout ça mis ensemble a produit cet ouvrage. Aristote d'abord, parce qu'il se trouve que faisant une thèse d'anthropologie à partir des données que j'ai récoltées dans l'île de Wight, qui se trouve donc à 15 km des côtes de la France, dans le Morbihan, je rassemble un très grand nombre d'informations relatives à la pêche, aux quantités qui sont prises par les pêcheurs ouattais, les prix qui sont obtenus, etc. Et je me retrouve avec, au moment d'écrire ma thèse, en me disant, voilà, je vais utiliser ces chiffres pour montrer comment ils s'expliquent par la loi de l'offre et la demande. Et puis, ça n'a pas lieu. Il n'y a aucun rapport entre l'offre et la demande et les chiffres qui sont obtenus par les pêcheurs. Alors, grand problème. L'économie, la science économique ne dit pas, n'offre pas l'explication. Peut-être l'économie marxiste, mais l'économie marxiste nous dit exactement la même chose. C'est l'offre et la demande. Il faut trouver autre chose. Et je tombe, mais c'est pas par hasard, parce qu'il y a un des fondateurs de l'anthropologie et l'économie qui s'appelle Karl Polanyi, qui est un philosophe hongrois, qui écrit un article Aristote, qui s'appelle en 1956, s'appelle Aristote découvre l'économie. Et que fait-il? Il nous explique la théorie de la formation des prix qui se trouve chez Aristote. Il considère, lui, Polanyi, qu'il ne s'agit pas d'une description de la manière dont se passent les choses chez Aristote, parce que, dit-il, à l'époque, les prix sont déterminés, les prix sont fixés. Ce sont une détermination de type étatique qui décide de la fixation des prix. Mais quand on lit Aristote, et ça se trouve dans l'éthique à Nicomaque, on voit une discussion disant, mais si un maçon veut échanger avec un cordonnier la construction d'une maison contre la fabrication d'un certain nombre de paires de chaussures, etc., comment font-ils, et ainsi de suite. Ça paraît une description, je dirais, de la vie de tous les jours. Et il y a là une théorie de la formation des prix que je peux utiliser pour mes données de l'île de Wight. Là, ça marche. Que dit Aristote en un mot, en une phrase? Aristote dit, le prix se constitue de telle manière à ce que l'ordre social soit reproduit exactement comme il était avant que la transaction n'ait lieu. C'est-à-dire que après une vente, ou après un emprunt qui est un prêt pour l'autre partie, la partie qui était relativement riche est relativement riche exactement de la même manière, et la partie qui était relativement pauvre se retrouve relativement pauvre exactement de la même manière. Le prix se détermine de manière à reproduire l'ordre social tel quel. Si Aristote était venu après Bourdieu, on dirait que c'est une thèse tout à fait bourdieusienne du rapport de force comme déterminant les choses. Mais voilà. Et donc il se trouve que ça marche. Là, ça marche. Je peux expliquer la formation des prix chez les pêcheurs, non seulement les pêcheurs ouattais, mais ensuite je me retrouve donc comme ça vient d'être dit, je me retrouve en Afrique sur des plages africaines où on fait de la pêche piroguière. Et là aussi, ça s'explique, la formation des prix s'explique exactement de cette manière. Et donc, je commence à m'intéresser véritablement de près à ce personnage d'Aristote. Et je découvre, comme vous le savez sans doute, c'est-à-dire que 95%, je dirais plutôt que 85% de ce que nous pensons, de la manière dont nous réfléchissons, dont nous concevons le monde, etc., autour de nous, 95% de cela, ça a été déterminé par Aristote. Il y a un tout petit truc, c'est sa théorie de la mécanique, la théorie du mouvement. La théorie du mouvement d'Aristote est fausse. Et donc, à partir de la fin du Moyen-Âge, avec des gens comme Nicolas Grosstedt, des gens qui commencent à réfléchir sur les questions de physique, et puis ça débouche sur, évidemment sur Leibniz et Newton, produisant de nouvelles méthodes mathématiques pour décrire la mécanique. Mais à part ça, à part la description du mouvement, eh bien Aristote a défini, je ne dis pas qu'il a raison, on n'en sait rien, mais en tout cas, il a défini le cadre dans lequel nous continuons de réfléchir. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Hegel dit à propos de lui, à propos de la logique, il dit il a créé la logique et puis c'est déterminé, il n'y a rien à ajouter. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Après, oui, on a voulu transposer la logique en termes mathématiques, mais il avait effectivement décrit l'ensemble des règles qui permettent de faire des raisonnements corrects. Ça a été fait entièrement par Aristote. Il a parlé de tout, il a utilisé la théorie de la proportion qu'il a emprunté à son camarade Eudoxe. Eudoxe venait d'inventer cette nouvelle théorie de la proportion en mathématiques, il l'a appliquée absolument partout, il en a fait la théorie du syllogisme, qui est une proportion discontinue, il l'a appliquée à la justice, qui est une proportion continue, deux formes de justice, distributive, corrective, deux formes différentes de proportion, mais toujours de la proportion. À explication de la formation des prix, toujours une proportion, mais une proportion inversée, proportion diagonale, dit-il. Et là, on comprend qu'il devait y avoir un graphique qui expliquait pourquoi la proportion était diagonale dans la constitution des prix. Mais voilà. Et donc, ce personnage, non seulement c'est intéressant, je dirais, à tous les aspects de théorisation, vous trouvez une esquisse de Freud dans sa réflexion sur la pensée. Enfin, voilà, tout y est. Nous avons un personnage tout à fait extraordinaire là. Quelqu'un m'a posé la question quand je parlais récemment de ce sujet en me disant mais comment se fait-il qu'apparaisse un personnage comme celui-là? Et je lui dis ben voilà, il y a un monsieur Lloyd qui s'appelle Geoffrey Lloyd, qui est un grand philosophe des sciences britanniques, et quand il nous dit quand il fait la liste des différences qui ont eu lieu au sein de la culture chinoise et la culture européenne, il dit, quand il fait cette liste, où il y a 5 ou 6 articles, il dit, en Occident, la présence d'un personnage de la dimension d'Aristote. Voilà, un personnage qui est exceptionnel. Et nous avons une chance extraordinaire, bien entendu, c'est qu'Aristote est un élève de Platon, et qu'il n'est pas d'accord avec Platon, et Platon est lui-même un élève de Socrate, et que donc, sur une époque extrêmement courte, sur quelques dizaines d'années, nous avons des gens avec des opinions tout à fait différentes sur ce qu'il faudrait penser sur notre monde, qui sont là, en interaction, véritablement. On pourrait imaginer qu'ils auraient été séparés, je ne sais pas, par 200 ans, 300 ans. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils étaient là de manière contemporaine. De la même manière que vous voyez, quand la tragédie grecque commence, eh bien tout ça a lieu, Sophocle, Eschyle, Euripide, tout ça se passe sur 45 ans, c'est tout à fait extraordinaire, c'est comme maintenant, tout ça va extrêmement, extrêmement vite. Donc, premier aspect, l'intérêt que je commence à porter pour ce personnage tout à fait extraordinaire, hors du commun, le personnage d'Aristote. Autre chose qui se passe, je dirais, à peu près à la même époque dans ma vie, mon professeur Edmund Leach. Mon professeur Edmund Leach est un anthropologue. C'est la deuxième grande génération, je dirais, de l'anthropologie britannique. Il a été élève de Bronislaw Malinowski, polonais, venu s'installer en Angleterre, mais considéré comme la personne qui a renouvelé l'anthropologie sociale britannique. Avant ça, il y avait d'autres noms. Il y avait des gens comme Edward Tyler, il y avait Rivers, W.H.R. Rivers. Mais Malinowski vient de l'extérieur. C'est un personnage qui est vraiment, je dirais, en prise avec la culture contemporaine. Il est l'ami intime de Witkiewicz, qui est un des grands dramaturges polonais, avec qui il fait du travail de terrain improvisé en Australie, etc. C'est un personnage extrêmement curieux, qui renouvelle, il est le premier à véritablement théoriser la méthode de l'anthropologue qui est participant observation, je cherchais l'expression, l'observation participante. un grand théoricien de cela. Il bénéficie aussi, il faut bien le dire, du fait que son épouse, Susie Mason, est une personne qui a un grand talent littéraire et qui va l'aider à publier des livres qui seront des succès de librairie. Et donc, ce personnage domine l'anthropologie britannique à la fin des années 20 et des années 30. Et tous les grands anthropologues, je dirais, des années 40, 50, 60, sont des élèves de Malinowski. Et mon professeur Edmund Leach fait partie de cette génération. Il a une formation qui n'est pas d'anthropologue, comme c'est souvent le cas. Il a une formation d'ingénieur. Et il a une formation sur le terrain d'un tout autre ordre. Son père était un commerçant britannique en Extrême-Orient. Et il aide son père dans son commerce. Et il se trouve être fait prisonnier en 1940, ou en 41 plutôt, quand il se trouve en Birmanie. Il est fait prisonnier des Japonais. Et quand il rentre en camp de Bretagne, après la guerre, il fait un rapport sur les gens avec qui il vivait de fait en Birmanie, la population où il se trouvait au moment où il était prisonnier. Ce sont les Kachin de Birmanie. Et c'est un personnage extrêmement critique, hein, comment dire, fort un iconoclaste. C'est un personnage qui a un dialogue avec Claude Lévi-Strauss, mais un dialogue extrêmement critique. Il se moque un petit peu de Lévi-Strauss, il dit c'est intéressant, mais enfin il faut pas pousser trop loin la théorisation, en particulier du côté mathématique. Il faut pas s'intéresser à ces choses-là. Mais pas pourquoi, pas s'y intéresser, parce que ça n'aura pas un véritable rendement. L'humain est trop foisonnant pour pouvoir être réduit à des équations. J'insiste un peu là-dessus parce que vous allez voir la suite. Et donc moi je me trouve être son étudiant doctorant, écrivant quelque chose précisément sur l'histoire de l'anthropologie, précisément sur Malinowski. Quand apparaît, nous sommes en 1979, quand apparaît l'ordinateur personnel. Et donc il est possible d'acheter soi-même un ordinateur. Voilà, c'est quelque chose qu'on oublie, la nouveauté de la chose. C'était des machines extrêmement simples. Si vous avez une idée de ce que c'est 16 kilo-octets, 16 kilo-octets, c'est vraiment pas grand-chose. Ça permet à la limite de faire un texte maintenant en Word de, je ne sais pas, de 3-4 pages. C'était la mémoire des ordinateurs que nous pouvions acheter dans ces années-là. Mais Leach, ingénieur, saute sur l'occasion et me dit « Paul, nous allons faire quelque chose » parce qu'il m'a repéré comme quelqu'un qui pourrait l'aider dans ce qu'il veut faire. Il me dit la chose suivante, il y a un tas de problèmes sur lesquels les anthropologues ont calé, des problèmes théoriques, eh bien nous allons nous y attaquer parce que nous avons maintenant l'ordinateur et grâce à l'ordinateur nous allons pouvoir résoudre ces choses-là. Alors je vous donne un exemple. À la fin des années, dans les années 1890, il y a un missionnaire qui vit chez les Mungin, des aborigènes australiens, et il décrit une société qui est une société de type totémique où l'ensemble de la société, l'ensemble du monde, etc., est divisé en 8 catégories. Il y a 8 catégories. Voilà. Donc les hommes eux-mêmes sont divisés en 8. Il faut se marier. Si vous êtes parti de la catégorie 1, il faudra que vous trouviez une épouse dans la catégorie 4. Tout ça est très prescriptif. Et dans la catégorie 4, vous trouverez aussi les kangourous. Mais dans ma catégorie à moi, vous allez trouver l'ornithorynque, etc. Le monde est entièrement divisé en 8 catégories, mais pas du tout de la manière dont nous le faisons, par rapport à la ressemblance des choses entre elles. Nous allons nous mettre les mammifères ensemble, nous allons mettre les vents ensemble, nous allons mettre les êtres humains ensemble. Non, pas du tout. On divise les vents en 8 catégories, on divise les excrétions du corps humain en 8 catégories, et vous trouverez dans la catégorie du crachat, et votre femme, la femme que vous devrez épouser, se trouvera dans la catégorie du sperme, etc. C'est comme ça que le monde est partagé. Et donc, un missionnaire se trouve chez ces gens-là. En 1890, il décrit une société divisée en 8 catégories de cette manière-là. Il s'appelait Howitt. Voilà, le nom, je cherchais un petit peu le nom, ça n'a aucune importance, mais il s'appelait Howitt, ce missionnaire. Dans les années 1930, un autre anthropologue se retrouve chez les mêmes personnes, il s'appelle Warner, et cette personne décrit une toute autre société. Il décrit une société dans laquelle il y a 5 lignages masculins et 7 lignages féminins, ce qui fait donc une société qui est divisée, si vous prenez l'ensemble des personnes, en 35 catégories. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de l'arithmétique de l'école, le plus petit commun divisé, le plus grand commun multiple, comment réconcilier 8 avec 35, ça paraît pas évident. 7 fois 5, 2, nombre premier, 8 c'est la troisième puissance de 2, ça paraît pas possible du tout. Et alors Leach dit, voilà, on va trouver l'explication. Et c'est lui qui la trouve, hein, c'est pas du tout moi. Il commence à produire des groupes de permutations et on trouve la solution, c'est qu'il y a moyen de faire effectivement, sur une généalogie, il y a moyen de faire congruer, de faire être compatible une interprétation en termes de 8 catégories et une interprétation en termes de 35 groupes humains. Voilà, la solution est trouvée. Et donc, alors une fois qu'on a trouvé la solution, je dis à Leach, il faut absolument publier cette découverte. Et alors là, il me dit, et là, il est cohérent avec lui-même, il me dit, ah non, moi je me suis trop engagé au cours de ma carrière à dire que ce type d'approche n'aboutirait jamais à rien de positif, je peux pas, on peut pas le faire, etc. Bon. Alors, j'ai dû attendre qu'il meure quelques années plus tard pour produire l'article et expliquer ce qu'ils étaient en réalité passés. Mais pourquoi parler de ça? Eh bien parce que je continue à réfléchir dans cette perspective-là en disant, voilà, on a l'ordinateur, eh bien, on a un outil qui nous permet effectivement de nous attaquer à des problèmes théoriques peut-être auxquels on n'imaginait même pas trouver la solution. Et je pense à autre chose. Je pense au fait que nous avons maintenant, par exemple, des langages de programmation, assez rapidement, qui sont des langages de programmation qui sont fondés sur la logique, sur l'idée que nous pouvons produire des phrases de manière logique. Bon, on revient à Aristote et sa théorie du syllogisme. Et en particulier, nous avons deux langages, un qui s'appelle Prolog et un qui s'appelle Lisp. Lisp, ce sont des initiales, mais je ne me souviens plus exactement à quoi ça renvoie. Et je me dis, un jour, ben, parmi les grands problèmes que les anthropologues n'ont pas pu résoudre, il y a quand même le problème de la mentalité primitive. Le problème de la mentalité primitive. Qu'est-ce que c'est que la mentalité primitive? Ben, c'est une chose dont les anthropologues n'ont pas beaucoup envie de parler. Quand Lévi-Strauss en parlera, lui, dans son bouquin qui paraît en 62, il l'appellera la pensée sauvage. Mais il y a cette idée, et qui est particulièrement, je dirais, étudiée dans les années 1910-1920, en particulier par un philosophe, pas un anthropologue, qui s'appelle Lucien Lévi-Brulle, qui écrit des tas de livres sur la pensée primitive, etc., etc. Mais Lévi-Brulle est absolument snobé par les anthropologues. Les anthropologues n'aiment pas qu'on dise que les gens que les anthropologues étudient de préférence, c'est-à-dire des sociétés peu industrialisées, des sociétés souvent très traditionnelles, etc., de dire qu'il y aurait quelque chose de primitif dans la manière dont ils pensent. Et donc ces problèmes-là ne sont pas envisagés. Il y a une espèce, je dirais, de refus de principe de s'intéresser à ces questions-là. C'est mentionné de manière indirecte, par exemple Evans Pritchard, un anthropologue britannique, le père d'un grand commentateur de la finance en ce moment, étudie des faits de mentalité dite primitive qui apparaissent dans une des sociétés qu'il étudie, qui sont les nuaires du Sud-Soudan. Et où, en particulier, les nuaires du Sud-Soudan nous disent que les jumeaux sont des oiseaux. Bon, voilà, c'est le type de choses qui nous dérange profondément. Nous n'aimons pas du tout entendre des gens qui disent cela. Et en particulier, il y a un philosophe américain qui s'appelle Quine. Et Quine dira, ben voilà, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés de penser que les gens peuvent véritablement dire que les jumeaux sont des oiseaux. Et quelle est la solution de Quine? Eh bien, il faut que nous modifions notre traduction de la manière dont ces gens parlent jusqu'au moment où cette anomalie disparaîtra. Mais je me dis peut-être que l'ordinateur peut nous aider à explorer au moins ce type de problème. Et j'essaie d'introduire dans l'ordinateur des phrases comme les jumeaux sont des oiseaux. Et je m'aperçois qu'en prologue, ce n'est pas possible. Il faudrait modifier la manière dont le langage de programmation prologue fonctionne pour pouvoir le faire. Et la question que je me pose alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait introduire dans les relations qui sont sous-jacentes, je dirais, au langage de programmation lui-même, il faudrait introduire une symétrie qui n'existe pas. il faudrait pouvoir modifier la relation. Pourquoi ? Ben, le raisonnement, il est très simple. Vous ferez vous-même. Pourquoi est-ce que les jumeaux sont pas des oiseaux ? Bon, c'est très simple. Les jumeaux, c'est une manière que dont nous décrivons une certaine partie des êtres humains. Les êtres humains sont des mammifères. Ils appartiennent donc à cette famille. Les oiseaux appartiennent à une autre famille. Il n'y a pas de recoupement. Il n'y a pas de l'intersection est vide, comme disent les mathématiciens, entre les oiseaux et les mammifères. Il n'y a pas de mammifère qui soit à la fois oiseau, et ni d'oiseau qui soit à la fois mammifère, et par conséquent, il n'est pas possible dans notre manière de concevoir les choses que des jumeaux puissent être des oiseaux. Pour pouvoir le faire, il faudrait supprimer la relation d'inclusion qui existe chez nous, que les êtres humains font partie des mammifères, et que les mammifères sont distincts des oiseaux, mais ils appartiennent, comme les oiseaux, à l'ordre des vertébrés, et ainsi de suite. Et je me dis donc, il y a une question de symétrie, là. Nous avons introduit dans nos langues une absence de symétrie. La symétrie existe, d'une certaine manière. On peut dire un pharaon à une pyramide, et on pourrait dire, à la limite, une pyramide à un pharaon. Voilà. Il y a des cas où nous fonctionnons encore un petit peu comme ça, avec des relations qui sont réversibles. Mais sinon, non, nous réfléchissons essentiellement en termes de relations qui ne sont pas symétriques, qui sont antisymétriques, comme disent les mathématiciens. Une catégorie est inclue dans une autre. Une chose qui est la cause de quelque chose d'autre, on peut pas renverser la relation. On peut pas dire non, c'est l'autre qui en est la cause. Si nous avons encore une des habitudes de parler en termes de signes, en disant telle chose est le signe de telle autre chose. Mais quand nous parlons de cause et nous parlons d'effet, à ce moment-là, nous introduisons une théorisation. De la même manière que nous le faisons quand nous incluons dans une catégorie dans une autre. Nous introduisons une rupture de symétrie. Et au moment, à l'époque où je réfléchis à ça, il y a les réflexions de Prigogine dans les livres qu'il écrit avec Stengers sur le fait que les systèmes dissipatifs, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir s'organiser, qui vont pouvoir atteindre un degré de complexité beaucoup plus élevé que ce qui existait là auparavant, ce sont des systèmes qui se caractérisent par une brisure de symétrie. Il y a donc quelque chose de l'ordre de l'antisymétrie ou de l'asymétrie dans cette question que nous avions pris l'habitude d'appeler la mentalité primitive. Et il y a un article qui est publié en 1910. C'est un article écrit par Émile Durkheim, le sociologue, un des fondateurs de la sociologie, avec son neveu Marcel Mauss, qui deviendra lui aussi un grand personnage dans non seulement en sociologie mais aussi en anthropologie et aussi en France, c'est un des grands penseurs du socialisme en France. Et Marcel Mauss est un des fondateurs de l'anthropologie économique avec son essai sur le don. Mais Durkheim et Mauss écrivent un article disant que on est donc en 1910, on est donc, je dirais, avant même les travaux de Lévi-Brull, en disant il y a dans ce que nous appelons mentalité primitive une parenté flagrante avec la pensée archaïque chinoise. Voilà. Et donc ça c'est une intuition c'est pas 1910, c'est 1912 cet article. Et il donne des exemples de ressemblance entre ce que nous appelons la pensée totémique australienne et ce que nous savons de la pensée chinoise archaïque, etc. Et ce qui apparaît petit à petit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pensée qui soit primitive par rapport à une autre, etc. Tout ça répond encore, je dirais, à une vieille conception où nous passons par des stades de manière, je dirais, assez linéaire. Mais il y a, dans les sociétés humaines, il y a deux grandes manières d'appréhender les choses. Et l'une, c'est ce que nous appelons totémique, chinoise ou primitive, et l'autre, c'est la nôtre. Et dans la nôtre, il y a très rapidement cette manière de classer les choses en fonction de leur pure et simple ressemblance. Nous mettons les choses ensemble selon la manière dont leur forme se ressemble. Et nous introduisons des raisonnements en termes d'inclusion de catégories les unes dans les autres. Et nous parlons de causes, de choses qui sont les effets. Mais dans la pensée chinoise archaïque, dans la pensée totémique, etc., le principe de classement des choses ensemble n'est pas de l'ordre de la ressemblance, il est de l'ordre de la réaction affective, émotionnelle aux choses. Nous, dans cette pensée-là, nous classons les choses comme étant semblables si nous, spontanément, comme êtres humains, nous réagissons de la même manière à elles. Et ce qui nous permet, ce qui permet dans la pensée chinoise de dire qu'il y a quelque chose qui est de chez le corbeau ou le hibou, qui est comme chez la sorcière, ça n'a rien à voir avec la ressemblance physique, mais c'est parce que ça provoque chez nous le même type de réaction. Quand les anthropologues vont s'amuser pendant des années à trouver des classifications primitives dans les sociétés qu'ils étudient, en Afrique, en Nouvelle-Guinée, en Polynésie, etc. Et quand on lit ces classifications primitives, on est gêné parce que tout ça n'a pas l'air de tenir debout. L'aspect primitif ou l'aspect, je dirais, irrationnel apparaît en surface. Et alors, dans les années 60, il y a un anthropologue australien qui s'appelle Ralph Berner. S'est dit, je ne vais pas faire comme les autres anthropologues, je ne vais pas poser des questions et essayer de construire une classification des personnes chez qui je me trouve. Je vais donner la parole à une personne qui est là et lui va m'expliquer comment les choses sont classées. À quoi pensait-il Bulmer quand il réagit à ça? C'est à ce qu'on voit dans certains rapports d'anthropologues qui, je dirais, assez gênants. C'est la personne qui interroge justement un membre d'une société chez qui il est allé vivre, disons en Nouvelle-Guinée, et qui trie dans ce qu'on lui dit. Quand par exemple on dit la salamandre c'est quoi, on dit oui la salamandre c'est un peu comme le crocodile, etc. Mais attention, dit la personne, attention parce que les salamandres sont des femmes. Et alors que fait l'anthropologue? Ah oui, non, malheureusement au moment où il me dit ça, il tombe dans la mythologie. C'est-à-dire que l'anthropologue ne prend pas au sérieux ce qu'on lui dit. Quand on lui dit que la salamandre est une femme, il a l'impression, voilà, la personne qui l'interroge tombe malheureusement dans autre chose. Alors, ce que fait Bulmer, il laisse la parole, il laisse pas la parole à son informateur. Et que dit l'informateur qui s'appelle Majnep? Ce sont la population, ce sont les calames de Nouvelle-Guinée. Et Majnep va produire une classification des oiseaux. Et que dit Majnep? Il dit, il y a les oiseaux qu'on rencontre dans les champs, il y a ceux qu'on voit très très rarement et qui vous font peur un petit peu quand vous le rencontrez par hasard dans les bois, il y a ceux sous la forme desquels les femmes nous apparaissent dans les rêves, il y a ceux qui, quand on nous les approchons, tentent de nous communiquer un message, etc. C'est-à-dire que quand on voit ça, et quand on voit ce que Majnep, lui, a produit, et qui ressemble pas du tout à la classification de l'inné, celles qui nous sont apparues au XVIIe ou XVIIIe siècle, il nous donne tout à fait autre chose. Il nous dit quels sont les oiseaux qui provoquent chez nous le même type de réaction. Et voilà, c'est exactement cela. Quand on regarde la manière dont Lévi Brull ou les autres commentateurs à l'époque décrivent la manière de raisonner de ces soi-disant primitifs ou sauvages, etc., ils nous parlent de systèmes en fait sans organisation. Ils nous disent ces gens en fait réfléchissent par association d'idées. Ils nous disent il semblerait qu'il y ait un réseau. Il y en a un, c'est le psychologue Henri Vallon qui parle de cela aussi. Il dit, ça ressemble à un synctitium, c'est-à-dire le tissu par lequel les champignons communiquent sous terre. C'est-à-dire un réseau, mais qui est un réseau qui peut être parcouru dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire, si on représente ça, et je l'ai fait ensuite sous forme de graphe, eh bien, la différence entre la pensée du monde grec, du monde qui est le monde, je dirais, occidental, qui devait être aussi celui de Sumer, celui de l'Égypte ancienne, etc., c'est une pensée qui produit un graphe orienté, c'est-à-dire un graphe qu'on ne parcourt que dans une seule direction. Tandis que là, si vous voulez modéliser la pensée archaïque chinoise, primitive, etc., c'est un graphe qui n'est pas orienté, on peut le parcourir dans n'importe quel sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette distinction entre relations de type antisymétrique et symétrique. Je fais cette recherche je publie ces recherches, je mets en évidence la présence de symétrie. Je retourne au livre de Evans Pritchard qui dit « Les jumeaux sont des oiseaux ». Et je me dis, il doit sans doute, à partir de ma conclusion, il doit sans doute dire aussi quelque part que les oiseaux sont des jumeaux. Et effectivement, il suffit de tourner la page parce que Evans Pritchard vous explique ça, que aux yeux de des nuaires, effectivement, la relation est symétrique, c'est-à-dire que les oiseaux sont des jumeaux, de la même manière que les jumeaux sont des oiseaux. Et alors, en allant un petit peu plus loin dans le livre, je trouve cette explication en termes d'affect. Que dit Evans Pritchard? Quelle est l'explication pour laquelle cette ressemblance inattendue entre des jumeaux et des oiseaux apparaît chez ces gens? Eh bien, dit Evans Pritchard, parce que au regard de Dieu, ils sont les mêmes. Voilà. C'est-à-dire, au regard de Dieu, en fait, c'est la manière d'exprimer la manière dont nous allons percevoir les choses comme étant du même ordre. Les jumeaux et les oiseaux ont quelque chose de commun. Alors quand on passe à ce moment-là, quand on commence à réfléchir, vous savez, on parle du miracle grec, on nous dit le miracle, il s'est passé quelque chose en Grèce antique à cette époque-là. Et à ce moment-là, on décrit effectivement la naissance de la tragédie, la réflexion d'Aristote sur la logique, etc. Mais ce qu'on voit surtout, c'est justement c'est la prise de conscience du fait qu'il y a quelque chose dans cette qui était écrit dans nos langages, qui est cette absence de symétrie qui est écrite dans nos langages et qui a un pouvoir en tant que tel. La pensée symétrique, c'est un petit peu la pensée du proverbe à père avare, fils prodigue, ou des choses de cet ordre-là. Et moi, j'ai travaillé dans des sociétés africaines où souvent, quand il y avait une discussion entre, je sais pas, par exemple, un des chefs de village et des gens qui travaillaient sur des projets comme moi, etc., la conclusion de la discussion qui avait lieu, c'est souvent quand le chef de village énonçait un proverbe. Une fois qu'il énonçait un proverbe, la discussion était terminée. Voilà, on a eu une relation symétrique qui permettait que la discussion cesse de se poursuivre. Alors qu'en Grèce ancienne, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre dans les cours, devant les tribunaux, qu'on peut poursuivre, la plaidoirie à l'infini. On découvre qu'en politique, on peut continuer à l'infini à expliquer son problème ou expliquer sa plateforme devant les autres. Donc, quand la pensée n'est pas symétrique, on peut enchaîner les arguments les uns après les autres. Et c'est ce que dit exactement en fait Aristote. Il nous dit qu'il y a trois types de vérité. Il y a la vérité par convention qui est la définition. Si on définit le poulain et le petit du cheval, et bien voilà, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est une convention. On a décidé de remplacer petit du cheval par poulain. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qui est encore vrai? Eh bien, ce qui dérive de la perception, ce qui vient de l'évidence des sens. L'illusion est possible. Donc il faut faire attention à l'illusion. Il est possible qu'il y ait, comme disent les Grecs, le phénoménon, c'est-à-dire la chose qui nous apparaît différemment en réalité de ce qu'elle est. Mais sinon, la perception des sens et puis le test, ce qu'on appellera après la méthode expérimentale, le test nous permet de voir si la perception par les sens est correcte. Voilà. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence. Et qu'est-ce qu'il y a? La troisième catégorie de vérité, eh bien, ce sont les conclusions de syllogisme. Si le syllogisme est bien conçu, nous allons avoir deux termes dans une première prémisse, nous allons avoir encore deux termes dans une deuxième prémisse, mais un des termes de la seconde sera commun avec la première. Et nous allons produire une conclusion dans laquelle, simplement, nous éliminons le terme commun. La baleine est un mammifère, les mammifères allaitent leurs petits, donc la baleine allait ses petits. Voilà, nous sommes arrivés à éliminer le terme commun. Le terme commun, c'est donc mammifère. La raison pour laquelle les baleines allaitent leurs petits, c'est qu'elles sont des mammifères. Le terme moyen, nous l'appelons la raison. Voilà, c'est la raison. En grec, le logos. Et grâce à ce raisonnement rationnel, c'est-à-dire celui où nous allons articuler des phrases entre elles et arriver à une conclusion, mais la conclusion est une nouvelle vérité, dès que la nouvelle conclusion a été produite, nous pouvons l'utiliser comme un fait de vérité qui nous permet de produire une phrase, des phrases par la suite, en l'introduisant, en faisant un élément établi de la réflexion qui vient après. Au moment où Aristote commence au début de sa réflexion sur ce genre de choses, il n'emploie jamais le mot logique. Le mot logique dérive justement de logos, mais Aristote fait de grandes distinctions entre différentes manières d'utiliser le syllogisme. Il distingue trois manières. Il distingue ce qu'il appelle l'analytique, la dialectique et la rhétorique. Alors, l'analytique, c'est le raisonnement à partir de vérités bien établies. Bien établi comment ? Par le consensus. Que les personnes informées, on dirait les experts, soient d'accord là-dessus. La dialectique, c'est l'utilisation du syllogisme pour les choses qui sont communément admises, dit-il. On a employé souvent l'expression probable, mais l'expression probable n'est sans doute pas bonne, parce que après on s'est mis à faire du calcul des probabilités. Les choses communément admises. Quand on parle de choses communément admises, sans avoir établi la preuve, on utilise la dialectique. Et on peut utiliser des procédés, en fait, légèrement différents que dans le cas de l'analytique. Et dans la rhétorique, la rhétorique qu'on utilise essentiellement, donc, justement, au tribunal, en politique, etc., on peut dire n'importe quoi d'une certaine manière. Il faut enchaîner, il faut produire des syllogismes, mais il n'est même pas nécessaire de commencer, de fonder ses arguments sur des choses communément admises. On peut utiliser des arguments qu'on appelle d'ailleurs rhétoriques maintenant, c'est-à-dire un peu n'importe quoi, raconter sa propre vie, parler donc d'un cas particulier, et ainsi de suite, faire des analogies. Des analogies n'étant pas des syllogismes, puisqu'il y a quatre termes dans une analogie, alors que dans un syllogisme il n'y en a que trois, et ainsi de suite. Et donc, on a, à cette époque-là, on a cette réflexion qui est une réflexion de ce type-là, introduite par Aristote, élève de Platon, élève de Socrate. Si vous regardez une pièce comme Les Nuées d'Aristophane, où on se moque d'Aristote, on le présente comme un sophiste comme les autres. Que disaient les sophistes ? Les sophistes, c'était donc ce qu'on appellerait des coachs maintenant, je dirais. C'était des gens qui vous apprenaient justement le métier de politicien ou le métier d'avocat, en vous expliquant comment produire des discours. Mais la seule condition qui était garanti par l'enseignement du sophiste, c'était que vous alliez produire un discours qui ne serait pas contradictoire, qui ne serait pas auto-contradictoire. Il n'y aurait pas de contradiction qui apparaîtrait. Mais le sophiste ne vous garantissait pas que vous diriez un discours qui est vrai. Pourquoi ? Parce que le sophiste allait aussi bien coacher, éduquer l'avocat qui serait l'une des parties au tribunal, mais aussi également l'autre. Tout ce que le sophiste vous apprendrait, c'est simplement l'absence de contradiction dans votre discours. Et il y a des dialogues de Platon qui mettent ça en évidence, en particulier le Gorgias, en particulier celui qui s'appelle le sophiste, etc., qui vous montre donc que le sophiste vous dit: je vous enseigne un discours, mais on peut produire des discours qui sont non contradictoires, mais dont l'aboutissement sera contradictoire avec ceux d'un autre discours produit exactement de la même manière. Il n'y a pas de référence absolue chez le sophiste. Et chez des gens comme Socrate, Platon, Aristote, ça dérange. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord d'être dans un univers qu'on appellerait de total relativisme maintenant. Parce qu'on s'est aperçu, effectivement, que le procureur et l'avocat ont pu commencer leur discours, leur plaidoirie, en étant d'accord sur le principe, les principes premiers, et puis finalement arriver à des conclusions absolument contradictoires. Et donc, ça impose chez des gens comme les premiers véritables philosophes, la nécessité pour eux de produire un discours qui ne soit pas relativiste, qui soit un discours fondé, qui soit un discours, comme dit le philosophe Kojève qui s'est intéressé à ça, qui soit un discours dogmatique, un discours qui prétend être le seul possible. Et que faut-il faire pour pouvoir avoir un discours qui soit non contradictoire, mais qui ait un critère supplémentaire qui ferait qu'il ne soit que le seul discours admissible, il faut introduire les notions de vérité et de fausseté. Voilà. Alors, les mots vrai et faux existaient déjà, bien entendu, dans la langue grecque, mais ils n'apparaissaient que dans un contexte rhétorique, où justement un avocat commençait à dire la partie adverse prétend ceci, mais il est vrai que cette chose est assurée, mais il est faux que les conséquences qui ont été déduites, etc. C'était le il est vrai que, il est faux que, était utilisé d'une manière purement rhétorique. Ça n'avait pas d'autres conséquences que justement impressionner. C'est un peu, je dirais, de l'ordre du surlignage avec un crayon jaune de ce qu'on est en train de dire. Mais que vont dire Socrate d'abord, Platon ensuite et Aristote ensuite? Il est possible de déterminer qu'un discours est non seulement non contradictoire, mais qu'il est vrai ou qu'il est faux. Alors, comment faut-il faire? Eh bien, ça apparaît dans le discours, dans le dialogue de Platon qui s'appelle précisément le sophiste. Il y a un étranger qui est un Éléate, qui est donc un élève de Zénon d'Élée, qui intervient et qui pose des questions et qui dit toi qui es assis là, si je dis que tu es assis là, qu'en penses-tu? Et l'autre répond, ben ça me paraît tout à fait admissible. Et lui dit, mais si je dis maintenant que tu voles dans les airs, qu'en penses-tu? Ah, il dira, non, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas dire cette chose-là. Alors pourquoi, demande l'Éléate, et l'autre répond, bien parce que si tu dis que je suis assis, c'est dire les choses comme elles sont, et si tu dis que je vole dans les airs, ce n'est pas dire les choses comme elles sont. Et donc la conclusion de l'Iliade, il dit la vérité, c'est dire donc les choses comme elles sont, et la fausseté, c'est de dire comme elles ne sont pas. Et donc, quand Aristote reprend le même argument, il le formalise un petit peu en disant dire de l'être qu'il est, c'est vrai, dire du non-être qu'il n'est pas, c'est vrai également, dire de l'être qu'il n'est pas, c'est faux, et dire du non-être qu'il est, c'est faux. Voilà, on est arrivé. On a fait sauter le scepticisme des sophistes en faisant que pour chaque phrase individuelle, on va pouvoir décider de sa vérité. Et donc on n'aura pas seulement un discours qui sera non contradictoire, qui était déjà pas mal, qui était ce que garantissaient les sophistes, mais on pourra produire des discours qui non seulement seront non contradictoires, mais en plus pourront être vrais. Voilà. Et je vous ai déjà présenté les trois critères pour qu'une phrase soit vraie chez Aristote. Soit c'est une définition, soit c'est une observation des sens, soit c'est la conclusion d'un raisonnement produit selon les règles du syllogisme, du bon raisonnement. Et donc nous avons, à partir de ce moment-là, nous avons créé au sein de notre culture une notion qui est non seulement un usage rhétorique des notions de il est vrai que ou il est faux que, mais nous avons une définition produite par Platon, qu'on appelle l'adéquation du mot par rapport à la chose qu'il décrit, le fait que le mot est le reflet exact de la chose qui est décrite. À partir de là, notre culture s'avance dans cette direction. Si on regarde à la même époque, quatrième, il se fait qu'il est très intéressant qu'en Chine ancienne, il y a une réflexion de type philosophique et de type logique, je dirais tout à fait du même ordre que celle qui a lieu en Grèce au même moment. Mais les questions qui se posent sont liées à une langue qui est tout à fait différente et à une manière de concevoir les sociétés qui est tout à fait différente. Il y a, par exemple, dans la pensée ancienne chinoise, le caractère, le signe graphique utilisé pour décrire un élément, que ce soit d'ordre abstrait ou concret, est considéré constitutif de la chose elle-même. Il n'y a pas de notion comme chez nous qu'il pourrait s'agir d'une étiquette qui serait relative. Par exemple, les Grecs savent que les Persans utilisent d'autres mots pour les mêmes choses que eux décrivent, mais sans que ça produise chez les Persans un problème considérable. Chez les Chinois, non. Si vous parlez du serpent, le caractère utilisé dans l'écriture pour à décrire le serpent est constitutif du serpent lui-même. Et les logiciens chinois à cette époque-là posent des paradoxes, des questions qui sont d'ordre logique, mais qui sont d'un tout autre ordre que celles qui apparaissent en Grèce à la même époque. Par exemple, qu'est-ce qu'un cheval jaune? Est-ce qu'un cheval jaune est davantage qu'un cheval ou moins qu'un cheval? Des questions de cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'on utilise deux caractères, parce qu'on commence à réfléchir en termes de caractères qui renvoient à des choses pénétrables, et nous dirions d'ordre abstrait, et des choses qui sont non pénétrables, et ainsi de suite. Et donc, les paradoxes qui apparaissent à cette époque-là, sont en Chine, d'un ordre tout à fait différent. Par exemple, on dit « Je suis sur le point de tomber dans un puits ». Est-ce que ça veut dire que je vais tomber dans le puits? Non, je suis sur le point de. Mais si on dit « je t'empêche d'être sur le point de tomber dans un puits », eh bien là, oui, je t'empêche en fait véritablement de tomber dans le puits. Il y a toute une réflexion qui n'apparaît pas du tout dans la pensée logique grecque, mais qui apparaît dans la pensée chinoise. Le type de paradoxe qui apparaît en Grèce, c'est lié au syllogisme. Épaminondas dit que les Crétois sont des menteurs, mais Épaminondas est lui-même Crétois, donc dit-il la vérité ou non quand il dit que les Crétois sont des menteurs? C'est du syllogisme. Ça n'a rien à voir avec cette histoire d'être sur le point de tomber dans le puits qui apparaît dans la langue chinoise. Pour ce qui est de la notion de vérité, on nous dit parfois qu'il y a dans la pensée archaïque chinoise un équivalent de la notion de vérité. C'est la notion de ko. Mais quand on regarde les paradoxes autour de la notion de ko, on s'aperçoit qu'il s'agit d'autre chose. Quand on nous dit « est-il ko de dire « tout le monde aime le prince » ?» Et alors on va vous répondre, c'est là qu'il y a une petite astuce. Non, il n'est pas ko de dire que tout le monde aime le prince. Pourquoi? Parce que si la sœur du prince disait qu'elle aime le prince, ce serait tout à fait inconvenant. Et donc, cette notion de vérité, de type de vérité en Chine ancienne qui est ko, c'est une notion de convenance, je dirais, d'ordre social. Est-ce que c'est une bonne chose dans la société de dire que telle chose est ko? C'est une question de contexte. Ça se situe fort dans le contexte du confucianisme. Est-ce que c'est bon pour la société de dire une chose de cet ordre-là? Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout, comme chez nous après Aristote, cette notion que, indépendamment de toute chose, sur un plan qui serait celui de l'objectivité, on peut dire qu'une chose est vraie ou fausse. Non, parce que la notion de ko en Chine, c'est une notion de convenance par rapport à l'ensemble du système social. Ce n'est pas du tout du même ordre. C'est pas de l'ordre de l'objectivité absolue. C'est de l'ordre d'une compatibilité avec l'ordre social tel qu'il est. Voilà, donc j'ai dit un certain nombre de choses sur la manière dont la vérité apparaît. À partir du moment où il y a cette notion de vérité et de fausseté, dire les choses comme elles sont, c'est par rapport à un cadre dans lequel on parle des choses. Et ce cadre, ce sera celui du monde tel qu'il est dans sa propre réalité. Et donc le mot de réalité apparaît donc immédiatement. Mais là, dans notre culture, la réflexion sur la réalité attendra encore pas mal de siècles. Il faudra qu'ait lieu un événement qui est une sorte de prise de pouvoir intellectuelle par un certain nombre de personnes. Et pourquoi? Eh bien parce que l'idée va s'installer, et c'est une idée qu'on trouve déjà chez Platon, mais qu'on verra se développer essentiellement chez les néoplatoniciens, et en particulier chez Proclus, c'est que il y a le monde empirique dans lequel nous sommes, dans lequel nous réfléchissons, dans lequel nous vivons, et puis il y a un monde qui est le monde en tant que tel, ce que les philosophes appelleront après l'être donné, la chose qui est inconnaissable chez Kant par exemple. Eh bien, et entre les deux, il y a un monde qui est un monde de notre imagination, dans lequel nous pouvons produire des modèles du monde tel qu'il est dans sa véritable réalité. Il y a le monde qui nous est donné, Il y a le monde tel qu'il est et que nous pouvons à peine percevoir. Nous savons qu'il est là, mais nous ne pouvons pas véritablement l'appréhender. Et puis, il y a un monde dans lequel qui est celui de notre imagination, quelque chose qui est produit dans notre tête, et dans lequel nous allons pouvoir produire des modèles. Et ces modèles vont être une tentative d'appréhension du monde tel qu'il est véritablement. Et dans toute la période, qui, je dirais, la période hellénistique, puis dans la période du Moyen Âge, etc., il y a cette conception qui vient donc des néoplatoniciens que quand on produit un modèle, on ne produit pas un portrait exact de la réalité, parce que la réalité est inconnaissable. Mais nous pouvons produire au sein de notre imagination une approximation de bonne qualité. Et il y a donc, comment va-t-on faire pour savoir si entre deux modèles équivalents, comment va-t-on trancher? Eh bien, on tranchera par l'assentiment des experts. Les experts vont se rassembler et dire, est-ce que c'est plutôt de cet ordre-là ou d'un autre ordre? Exemple, les modèles classiques qui viennent de Ptolémée dans l'Antiquité, qui représentent donc la Terre comme le centre du monde, un système géocentrique, et une représentation qui apparaît avec des gens comme Copernic, d'une représentation héliocentrique avec le Soleil au centre du système planétaire. Comment va-t-on trancher? Est-ce que les modèles permettent de trancher? Et à l'époque justement de Copernic, Kepler, etc., avant le procès de Galilée, on nous dit, eh bien, on demande aux docteurs, c'est-à-dire aux spécialistes de la chose, les experts maintenant, on va leur demander entre deux modèles possibles qui décrivent la réalité de manière équivalente, ou en tout cas avec une bonne capacité à la prédiction, on va leur demander de trancher. Et on appelle ceux qui tranchent entre les modèles, on les appelle les physiciens. On les appelle les physiciens. Si on employait le mot aujourd'hui dans ce sens-là, on les appellerait plutôt des métaphysiciens. Parce que, justement, ils vont produire une opinion qui est au-delà de l'objectivité offerte simplement par le modèle. Et donc, on a, et c'est par les travaux de Pierre Duhem, qui a écrit un système du monde qui fait, je sais pas pour souvenir, c'est une douzaine de volumes. Il a fait quelques petits textes plus courts, mais qui nous raconte bien l'histoire de cette discussion à cette époque-là. Et le problème va se poser à ce moment-là d'un certain nombre de personnes, d'intellectuels, comme on dit maintenant, qui vont être irrités par le pouvoir de ces métaphysiciens de trancher entre différents modèles. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas simplement les contraintes, à cette époque-là, les contraintes qui sont celles des modèles par rapport à la réalité décrite, mais il y a un certain nombre de contraintes qui sont imposées par l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut produire un discours qui soit compatible entre ce que Aristote avait dit et ce que disent les Écritures. Vous le savez, dans l'université du Moyen-Âge, la théologie est produite à partir des textes sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais pour tout ce qui est de la description du monde naturel, eh bien, l'Église est d'accord que ça se trouve chez Aristote. On peut compléter avec ce qui se trouve avec Aristote, mais on ne peut rien tirer d'Aristote qui soit incompatible avec ce que disent les Écritures. Et en particulier, vous savez, il y a un certain nombre de choses qui sont très contraignantes. Le fait que Dieu a pu arrêter la progression du soleil au firmament pour permettre à Josué de gagner une bataille. Et aussi, la possibilité, bien sûr, que le Christ puisse transformer son corps en son propre corps et le vin en son propre sang. Et il y a un très bel ouvrage de Redondi, un philosophe historien italien, sur le procès de Galilée par rapport à ces deux notions, justement, de arrêter le soleil et transformation qui, du point de vue de la chimie qui apparaît déjà à cette époque-là, n'est pas possible, du vin en sang et du pain en chair. Et donc on trouve un certain nombre de personnages comme les Kepler, les Galilée, Tycho Brahe, Copernic lui-même, des gens qui commencent à trouver ce joug de la nécessité de produire un discours compatible avec ce que nous avancent les Écritures, et qui vont essayer de trouver une astuce, pour qu'on n'ait plus besoin de l'opinion de ces docteurs de l'Église, de ces métaphysiciens, par rapport aux modèles qui sont produits par les mathématiciens qui vont décrire le monde. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer? Eh bien, ils vont recourir à une vieille tradition qui se trouve chez Platon, parce que Platon était un pythagoricien. Il était un élève de Pythagore, et on trouve dans la métaphysique d'Aristote une discussion par Aristote de la distinction qui existe entre Platon, les idées de Platon et celles de Pythagore. Il dit, par exemple, Aristote dit, Platon ne dit pas que la réalité est faite de nombres, il dit que la réalité participe des nombres, et il ajoute, Aristote, mais c'est une nuance relativement mineure, etc. Mais il y avait effectivement, avant Socrate, il y avait un mage qui était Pythagore, qui était un gourou comme on dit maintenant, et qui disait le monde, de la même manière que Parménide disait le monde est une seule chose, ou qu'Héraclite dit le monde est indescriptible parce que le monde est en flux et donc les choses n'arrêtent pas de se modifier. Mais Pythagore disait le monde, cet être donné, ce monde véritable, ce monde est fait de nombres. La constitution de l'être donné, de la chose en soi, c'est des nombres. Et que vont faire ces jeunes Turcs qui veulent secouer le joug de l'Église? Ils vont produire à l'intérieur de la science un discours de type pythagoricien, en disant il n'y a plus trois couches entre le monde empirique, celui de mon imagination, je produis les modèles, et le monde en soi. Parce que dans le monde de mon imagination, je produis des modèles mathématiques. Ces modèles mathématiques sont la description en soi de la chose telle qu'elle est. C'est un saut, c'est un coup, si vous voulez, un coup épistémologique platonicien, mais surtout pythagoricien. La vérité, le monde tel qu'il est un monde constitué de nombres. Et quand moi je produis en tant que savant un modèle mathématique, je ne suis pas là dans le domaine de mon imagination, comme disait Proclus, à produire des modèles par rapport auxquels le métaphysicien, le docteur de l'Église devrait trancher. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et à partir du moment où on entre dans cette logique-là, avec ce coup, qui est un coup mystique, en fait, il faut bien l'appeler par son nom, qui est un coup épistémologique mystique, qui élimine, je dirais, toute modestie ou humilité dans notre réflexion, en disant nous pouvons produire des modèles mathématiques, mais ce sont encore des choses qui sont des tentatives de notre part d'écrire la réalité. Eh bien non, les jeunes Turcs, Galilée, Copernic, Kepler, etc., Bruno, Giordano Bruno, bon, qui lui sera brûlé pour défendre ses positions pythagoriciennes, nous disent non, nous n'avons plus besoin, merci messieurs les docteurs de l'Église, nous n'avons plus besoin de votre point de vue, nous, quand nous décrivons le modèle mathématique, c'est la réalité en soi, c'est comme ça que le monde existe. Je vais peut-être pas continuer dans cette fois-là. Je vais juste dire une chose, c'est que dans cet ouvrage, j'ai voulu m'intéresser à quelque chose qui est considéré comme un monument des mathématiques au XXe siècle, qui est la démonstration par Kurt Gödel de du deuxième théorème d'incomplétude, où il prouve que l'arithmétique est incomplète. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du tout, mais ce que je montre moi dans ma démonstration, c'est que il n'y a pas dans la démonstration de Gödel l'idée que les mathématiques seraient la constitution de modèles qui se cantonneraient dans notre imagination, qui seraient des produits de notre imagination, mais qui n'auraient pas une portée ontologique sur le monde tel qu'il est. Cette conception n'existe pas. Je montre que la conception de Gödel est purement pas pythagoricienne, qu'il opère sa démonstration non pas comme s'il allait découvrir quelque chose par un enchaînement de règles, mais comme s'il explorait une réalité qui existe en soi. Parce que quand il nous dit qu'il y a des propositions arithmétiques qui sont indécidables, il nous dit qu'elles sont vraies, mais qu'elles ne sont ni des définitions, ni qu'elles tombent sous nos sens, ni qu'elles sont, au sens d'Aristote, la conclusion de raisonnement logique de l'application du syllogisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand il nous dit qu'il y a des propositions vraies qui n'appartiennent à aucune de ces catégories, il ne peut en réalité pas cacher qu'il a l'impression, en fait, que s'ils sont vrais, c'est parce que lui les découvre comme vrais, simplement par l'exercice de ses sens, comme s'il s'agissait d'une réalité empirique. J'ai fait l'analyse de la démonstration de ce théorème, qui est une démonstration extrêmement compliquée, où beaucoup de personnes se sont perdues, et un commentateur faisait la remarque que aussi bien des partisans de la démonstration de Gödel que ceux qui s'opposaient à lui n'avaient pas nécessairement compris toute la subtilité de sa démonstration. Ce que je montre, c'est que dans sa démonstration, il utilise des arguments qui appartiennent aux trois catégories que Aristote avait distinguées, celle de l'analytique, fondée sur des vérités admises, celle de la dialectique, fondée sur des choses communément admises, mais qu'il utilise aussi des arguments purement rhétoriques dans ses démonstrations, c'est-à-dire fondés sur absolument sans fondement, simplement pour essayer d'obtenir l'acquiescement de la personne en face. Pourquoi est-ce que Gödel imagine qu'il peut utiliser n'importe quel petit argument pour sa démonstration? À mon sens, c'est parce qu'il est convaincu précisément que ce n'est pas qu'il n'est pas en train de produire un système, des conclusions d'un système formel, mais qu'il est en réalité en train de décrire une réalité telle qu'elle existe en soi. Une des choses qu'il se permet, par exemple, c'est de dire qu'une proposition mathématique parle d'elle-même en disant qu'elle est vraie. Bon, c'est une chose qui est absolument inadmissible pour un chercheur en sciences humaines et pour un anthropologue d'admettre qu'une proposition puisse émettre à propos d'elle-même une opinion sur sa réalité, sur sa vérité. Mais ça se trouve chez Gödel. Et Bertrand Russell, le philosophe britannique qu'il avait bien connu, disait, il a écrit dans son autobiographie, Kurt Gödel est un platonicien militant qui était convaincu, dit Russell de manière ironique, que le jour où il mourrait, il pourrait voir apparaître au firmament, dans le paradis, la négation logique apparaissant comme l'injonction de Dieu qui apparaît à Josué au milieu de la bataille en disant tu vas par ce signe tu vaincras. Voilà. Alors on ne peut pas parler de tout, mais j'essaie d'introduire un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse avoir une discussion à partir de là.
Bien, merci Paul Jorion. On a parcouru beaucoup d'époques de la pensée, la mentalité primitive, une réflexion sur la mentalité primitive, l'approche affective du réel, finalement, la dimension émotionnelle de la relation réelle, l'invention de la vérité liée, je dirais, à la prise de conscience des formes syllogistiques et des relations asymétriques qu'expriment le langage ordinaire, l'invention de la réalité objective. Donc tout ceci nous fait pas mal de points qui peuvent peut-être être repris et éclaircis par des questions. Si je commence par la fin, pas par le théorème de Gödel, mais plutôt par l'invention de la réalité objective. Vous parlez de coup de force épistémologique, vous réduisez cette invention de la réalité objective à une sorte de mythe ou de croyance que vous rattachez à une sorte de reviviscence de la pensée pythagoricienne ou de renaissance du pythagorisme, si j'ai bien compris. Toutefois, malgré tout, il y a quand même un argument qu'on peut peut-être soulever, c'est que cette réalité objective, pour mythique ou mythologique qu'elle soit, en partie, elle a malgré tout produit des modèles qui ont une efficacité pratique, je dirais, sans commune mesure avec les autres modèles. Alors, est-ce que c'est pas un argument qui irait quand même dans le sens, je dirais, d'une, d'une défense de la réalité objective.
Oui, 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 bien entendu. Mais qu'est-ce qui a inventé la poudre à canon? Qu'est-ce qui a inventé le gouvernail? Qu'est-ce qui a inventé la boussole? Ce sont précisément les Chinois sans pensée théorique. Et nous avons la capacité, effectivement, pas. Nous avons la tendance maintenant, quand nous avons une. Comment dire? Nous voyons la technologie fort comme une science appliquée. Nous avons l'impression que c'est parce que nous avons produit effectivement un discours de type théorique que nous pouvons voir des conséquences. Mais c'est vrai, bon, il y a une certaine efficacité de la pensée rationnelle, de cette pensée-là. Mais c'est vrai aussi que la pensée de type chinois avait produit jusqu'au XVIIe siècle à peu près, il n'y a pas d'avancée technologique de notre côté qui soit plus considérable que du côté chinois. Nous empruntons beaucoup à eux, ils empruntent beaucoup à nous aussi. Quelle est la différence à la pensée technologique chinoise? C'est une pensée qui est fondée essentiellement sur l'essai et l'erreur, qui est lié sur le fait d'explorer le monde de manière systématique, sans théorisation, sans idée qu'il y a une réalité qui suffirait de décrire et que ça produirait des résultats. Alors, quand vous me demandez est-ce que la pensée rationnelle n'a pas une productivité par rapport à dans une production de technologie, oui, mais la pensée de type archaïque chinoise a aussi une capacité à explorer les choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était il y a quelques années, un Chinois qui avait eu faisait la première page des magazines aux États-Unis parce qu'il avait gagné une course technologique en battant les équipes américaines qui étaient jugées absolument favorites. Lui, il était considéré totalement comme l'outsider. Il s'agissait de faire la cartographie du génome d'une plante, je ne sais plus laquelle. Et donc il y avait en lice 4 ou 5 équipes américaines en Californie qui avaient trouvé ça rapidement. Et lui en Chine, il a réussi. Et comment a-t-elle fait? Les équipes américaines, c'est des équipes constituées d'une vingtaine de personnes chacune. Lui, ce qu'il a fait, il a mobilisé des étudiants chinois, tous leurs ordinateurs, des dizaines de milliers d'ordinateurs, et il a résolu le problème purement et simplement par la force brute, comme on dit, c'est-à-dire en épuisant le nombre des combinaisons et trouvant la solution de cette manière-là. Donc, il y a effectivement, le biais, je dirais, de la ressemblance pour trouver des choses. C'est vrai que les choses qui se ressemblent vont se comporter à peu près de la même manière et donc on peut faire des prévisions de ce type-là. Mais la réaction intuitive, instinctive aussi nous donne des bonnes indications sur ce qu'il faudrait faire. La pensée symétrique de type chinois archaïque ne suppose pas du tout justement la création, l'invention d'une réalité objective, parce que c'est une pensée qui fonctionne en termes de corrélation, une corrélation où une chose est le signe d'une autre, où telle et telle chose apparaissent en même temps, qui est une bonne appréhension du monde aussi. Ça nous permet aussi de faire de la prévision, mais sans production de théorie. C'est athéorique. La pensée en termes de corrélation est une pensée athéorique. Il n'est pas nécessaire de sortir de la description du monde empirique tel qu'il est pour la produire.
Que pensez-vous de la linguistique générative de Chomsky, pour qui les mécanismes qui aboutissent à la parole relèvent de l'inné, à la différence de ce que vous avez abordé dans l'exemple du confucianisme.
Oui.
En gros, la façon dont on retranscrit nos idées relève en fait de la culture où on évolue.
Oui. Ben, personnellement, je considère que la linguistique de Chomsky est fausse, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'a pas. J'ai un ami qui s'appelle Dan Sperber, qui est un anthropologue, qui est un très grand admirateur de la linguistique cartésienne ou générative de Chomsky, mais personnellement, je me suis familiarisé avec la linguistique dans d'autres types d'approches, et je considère que l'approche de Chomsky est fausse, personnellement. Qu'il n'y a pas de... Et pire que ça, qu'il n'y a pas de reste, il n'y a pas de partie recyclable dans une approche qui serait de l'ordre de la description valide des faits.
Je suis tout à fait intéressé par votre opposition entre l'approche chinoise primitive par essais et erreurs successives et puis le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel on arrive maintenant à travers l'informatique à construire des choses d'une complexité telle que la méthode par essais successifs n'est plus praticable, ne fonctionne plus. Quand vous fabriquez le logiciel qui pilote un Airbus A380, vous ne pouvez pas vous permettre de vous reposer sur la certitude d'avoir fait tous les essais possibles. C'est juste pas possible. Et donc, il faut développer des modèles, il faut développer des théories, il faut développer une approche extrêmement formelle à travers des langages qui existent aujourd'hui, dont Prolog et Lisp sont les précurseurs, et qui obligent d'aborder le problème avec un formalisme méthode très mathématique et l'écriture formelle de programme est une science qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'informatique dans des domaines qui sont vitaux et pour lesquels l'approche pragmatique d'essai-erreur n'est plus acceptable.
Oui, non, l'essai-erreur est une heuristique, c'est pour trouver comment les choses fonctionnent. Voilà, c'est pas, on peut effectivement pas imaginer que dans le cockpit d'un avion, il y a un système qui tente par essai-erreur. Non, c'est une heuristique, c'est pour arriver à décrire comment le monde est. Mais la pensée, je dirais, de type algorithmique dont vous parlez, nous envoyons à tout moment aussi les défauts. Un exemple, c'est je vais prendre cet exemple parce qu'il est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que Fukushima, le désastre de Fukushima, est possible? En raison d'un très grand nombre de défauts de la manière dont nous abordons les problèmes. D'abord, par le fait que nous considérons, par exemple, que si une centrale nucléaire a une probabilité d'accident grave d'une fois tous les 5000 ans, j'avais fait le calcul, ça veut dire qu'avec 450 centrales nucléaires comme on a à la surface du monde, ça veut dire un accident tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, on n'intègre pas une partie du problème. On nous dit aussi les accidents, on peut avoir lieu une fois tous les 5000 ans, mais ce n'est pas en tenant compte de l'accident dû à une erreur humaine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas mobiliser l'erreur humaine, on ne peut pas l'introduire dans le calcul. Ou alors dans le cas de Fukushima, on fait une modélisation sur la manière dont une centrale nucléaire peut résister à un tremblement de terre. On fait parallèlement une analyse comment une centrale peut résister à un tsunami, mais on ne fait pas une analyse en termes de concordance, de coïncidence entre un tsunami et un tremblement de terre. C'est-à-dire que notre pensée algorithmique, qui nous semble tout à fait, fiable, a ses propres naïvetés, qui sont considérables. Rien que sur cet aspect-là de Fukushima, je peux déjà en mentionner quatre. Je discutais avec Henry, un astronaute français. Et on parlait parce que on avait l'occasion de parler au moment où venait d'avoir lieu un accident aérien aux États-Unis, où à l'atterrissage à San Francisco, un avion avait heurté un petit mur. Et c'est un spécialiste, je veux dire, c'est un pilote, il a été pilote d'essai. Bon, je lisais un petit peu ce qu'on voyait dans les journaux et je lui posais la question où en est-on justement dans la gestion de choses de cet ordre-là. Et on était tombé sur une conclusion commune, c'était que dans un cockpit maintenant où des tas de décisions sont prises par l'ordinateur, des tas d'autres sont prises par l'être humain ne s'y retrouve plus, ne sait plus à quel moment il doit intervenir lui-même, il ne sait plus à quel moment où l'ordinateur lui donne quelque chose, mais il doit encore exercer aussi sa faculté critique, c'est-à-dire savoir est-ce que l'ordinateur fonctionne bien ou mal au moment où il propose une directive en disant ce qu'il faut faire maintenant. Et manifestement, dans ce cas-là, enfin selon Henry et d'après ce que moi j'avais pu lire, c'était précisément parce qu'on a affaire maintenant à un double système où il n'est plus clair pour l'être humain que s'il doit prendre une décision, si l'ordinateur est en train de la prendre à sa place, etc., etc. Quand on analyse des accidents de ce type-là, on voit ce qui se passe. Non, je crois que nous avons une très grande incapacité à voir les défauts de notre propre, nos approches. Il y a une chose dont j'ai pas parlé, mais j'en parle dans le livre. C'est quelque chose qui avait été décrit par le linguiste du 19e siècle, Max Müller. Lui, il en avait parlé pour dire que nos mythologies et les débuts de notre science dépendent fort de notre capacité à produire des explications dans notre discours, mais à produire des anomalies et des contradictions dans notre discours qui demanderont des explications supplémentaires et ainsi de suite. Et que fort notre réflexion est fort une espèce de, je dirais, à la poursuite d'artefacts, d'erreurs que nous produisons dans le raisonnement et que nous allons expliquer ensuite. Et je mentionne dans le livre une description par le physicien Lochak de la réflexion de Dirac, un des inventeurs de la mécanique quantique, où Dirac est en train de faire exactement ce que décrit Max Müller. Il fait une équation d'un processus, mais il y a là une variable dont on ne sait pas trop exactement ce qu'elle est. Alors on va essayer d'expliquer cette variable, donc on va produire de nouvelles équations. Ces nouvelles équations vont expliquer la variable qu'on essaie d'expliquer, mais vont produire de nouveaux facteurs qu'il faudra expliquer, et ainsi de suite. Et alors, la réponse qu'on peut dire, oui, mais il y a vérification expérimentale. On n'est pas simplement comme ça faire apparaître de nouveaux facteurs dans une équation et puis de lui donner un nom. On vérifie si ça marche comme ça, oui ou non. Et en fait, dans le passage suivant de Lochak, il dit, en fait, on a cessé de chercher la vérification expérimentale. Vous vous souvenez ce qui s'est passé récemment sur le boson de Higgs qu'on a trouvé. Est-ce qu'on l'a trouvé ou on n'a pas trouvé? Est-ce qu'on en avait absolument besoin? Est-ce que, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour le trouver, est-ce qu'on n'était pas devenu absolument nécessaire? Est-ce que ce n'est pas la solution pratique pour essayer de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité qui sont incompatibles pour des phénomènes de ce type-là et qu'il faut donc avoir, si on pouvait trouver une particule qui est une particule qui expliquerait la gravité, eh bien on aurait trouvé un moyen de réconcilier les deux. Et si on ne pouvait pas trouver cette particule, il faudrait recommencer le calcul sur absolument tout. Je crois que dès qu'on pose un regard critique justement sur le rapport entre science et technologie comme science appliquée, on s'aperçoit vite qu'il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer.
Ce qui montre bien que le modèle n'est pas la réalité. Le modèle de Newton n'en pas la réalité, sauf peut-être dans un domaine restreint, à vitesse lente, etc. Avec, il a fallu élaborer un modèle plus sophistiqué, la relativité, etc.
Oui, il reste toujours là. Il y a toujours un reste d'anomalie qu'il faudra expliquer par la théorie suivante, mais qui oblige parfois, je dirais, à reposer le problème entièrement. Dans le cas du géocentrisme et de l'héliocentrisme, le problème n'était pas avec le géocentrisme de Ptolémée que les prévisions étaient inexactes. Les prévisions étaient exactes. Ce qui conduisait les astronomes à trancher en faveur de l'héliocentrisme, c'était que le modèle était plus simple. Dans le cas du modèle de Ptolémée, il y avait des épicycles, il fallait ajouter des constructions accessoires pour que le modèle marche véritablement. Mais c'est un choix que nous faisons en disant entre deux modèles dont la valeur prédictive est identique, que nous préférons le plus simple. Je dirais c'est un petit peu c'est un choix esthétique. C'est pas, il n'y a pas d'autres justifications à cela.
Une autre question. Je me demandais en vous entendant parler de la mise en équation qui produisait des artefacts, qui nécessitaient d'autres équations, si c'était pas tout simplement ça le cours majestueux de l'histoire dans lequel certains peuples ne sont pas rentrés. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on a aussi inventé ce curieux concept d'histoire?
Oui, mais il y a un mathématicien qui s'appelle Eugène Wigner, et en 1960, j'ai bon souvenir, il fait un article en disant la coïncidence extraordinaire entre les modèles mathématiques et la réalité telle qu'elle est. Et là aussi, comme je viens de le dire, coïncidence extraordinaire entre les modèles mathématiques et la réalité. Les premiers problèmes que les géomètres se posent, c'est par exemple de comparer la diagonale d'un carré à son côté, et le problème est insoluble. on ne peut pas définir une unité qui permettrait à la fois, dans les mêmes termes, de décrire la diagonale ou le côté. Si on prend la diagonale comme unité, eh bien, on a un chiffre de longueur infinie pour décrire le côté. Si on prend le côté, on a un chiffre de longueur infinie, racine de 2, pour décrire la diagonale. Même chose sur le cercle. On ne peut pas comparer le diamètre ou le rayon à la circonférence ou à la surface. On tombe sur un chiffre qui est un chiffre, non seulement qui est un chiffre de longueur indéfini, mais qui n'est même pas un chiffre rationnel, parce qu'il n'est pas, il ne peut pas être produit comme solution d'une équation. Pi n'est pas la solution d'une équation. C'est un chiffre qui nous échappe encore bien davantage que cela. Le rapport de la diagonale du pentagone par rapport à son côté, ce qu'on appelle la section dorée, aussi un chiffre infini, etc. Alors, si j'avais eu l'occasion d'avoir une discussion avec Wigner, je lui aurais dit... coïncidence extraordinaire entre les mathématiques et le monde. Les premières questions que nous nous posons sont insolubles dans ces termes-là. Et Eudoxe se fait connaître, donc l'ami d'Aristote, il se fait connaître au départ en utilisant une méthode qui va pouvoir permettre, qu'il appelle méthode l'exhaustion, où on essaye de réduire de plus en plus l'écart entre deux chiffres pour essayer de résoudre ce problème insoluble des irrationnels. Non, c'est par ou alors Meyerson, Émile Meyerson, nous montre dans l'histoire de la science que beaucoup de victoires dans la physique ont consisté simplement à mettre entre parenthèses le problème qui se posait. De l'appeler, et il utilise l'expression de l'appeler irrationnel, et dire qu'un irrationnel, eh bien, on ne trouvera pas la solution, et donc on passe à la suite. Mais que l'histoire des sciences est ainsi ponctuée de la définition d'irrationnel petit à petit. Non, c'est un filet. Et la conception d'Aristote, c'est tout à fait différent. On n'est pas du tout platonicienne en disant nous abstrayons sur le monde, nous arrivons à jeter un filet qui est un filet, celui de la mathématique, mais c'est une stylisation que nous opérons sur le monde. Nous ne décrivons pas une réalité quand nous faisons ça. Nous jetons un filet et ce filet marche plus ou moins bien et peut permet de produire de la science qui est de la technologie qui soit de la science appliquée. Mais ça marche dans certains cas. Dans certains cas, ça ne marche pas. Bon, on parlait de Lévi-Strauss tout à l'heure. La personne qui a conseillé Lévi-Strauss sur les questions mathématiques, d'abord c'était Weil, mais ensuite c'était Guilbeault. Et Guilbeault était mon professeur. Et Guilbeault était un personnage, un mathématicien, mais extrêmement sceptique. Et je ne fais que reproduire son raisonnement à lui quand je parle de ces choses-là. Il a écrit des livres sur l'approximation. Il a écrit un livre avec Daval sur les mathématiques approximatives. Proprement parlé, Guilbeault était extrêmement critique vis-à-vis de la démonstration du terme du théorème de Gödel. Et c'est dans son livre sur l'approximation, Guilbeault dit la chose suivante, il dit je demande à un plombier, c'est quoi la valeur de pi? Et le plombier me répond c'est 3,14,15 quand je l'emploie du zinc et c'est 3,14,16 quand j'emploie du cuivre. C'est-à-dire qu'en fait ce plombier s'est rendu compte que pour que ça marche, il faut employer un chiffre légèrement différent pour deux métaux différents. C'est-à-dire que dans la réalité à laquelle il confronté, il s'est aperçu que on peut pas utiliser exactement le même chiffre. Il faut arrondir d'un côté ou arrondir de l'autre. Et je crois que c'est dans un monde comme celui-là que nous vivons. Il y a beaucoup de problèmes de physique actuelle, ne sont des problèmes qu'on n'essaye même pas de résoudre sur un plan théorique. On essaie de les résoudre par la simulation. On essaie de simuler les conditions à reproduire. Et en technologie aussi, on utilise énormément la simulation. Tester un avion en soufflerie, ce n'est pas à partir d'un modèle de technologie, d'un modèle mathématique, c'est à partir de, on regarde l'influence du vent sur la structure qu'on a construite. Pour essayer de déterminer la résistance des matériaux, nous utilisons bien davantage encore aussi l'essai et l'erreur que nous l'imaginons. Pour tout ce qui est de la simulation, c'est de l'ordre de l'essai et de l'erreur.
Ça va ?
C'est justement fait de plus en plus par l'informatique, tout ça.
Oui, mais bien entendu, on fait de la simulation par informatique.
La réaction du pilote d'essai de l'Airbus A380 était de dire il a marché comme le simulateur.
Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai aussi utilisé de la simulation, c'est-à-dire j'ai utilisé du codage, de la programmation, pour essayer de reproduire des situations de type marché. Et c'est ce qu'on appelle des simulations basées sur agent-based, je ne sais plus comment on dit en français, des simulations agents, je crois simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de décrire la situation en termes purement théoriques, on reconstitue avec une multitude de particules ou d'êtres humains en interaction, d'essayer de reconstituer une situation qui est du type de celle auquel on a affaire, et alors on la décrit. Et la difficulté par rapport à un modèle purement mathématique, le modèle mathématique produit un résultat prévisible, alors qu'une simulation, si on modifie légèrement les circonstances, ou si on met un petit élément, je dirais, de par exemple de hasard dans la constitution du nombre d'agents qu'on va mettre en interaction, les résultats de la simulation vont être différents, vont pas être les mêmes. Non, nous faisons en fait moins confiance au modèle théorique que nous l'imaginons, parce que nous le corrigeons à tout moment par du test par rapport aux données, je vais dire la réalité, par rapport aux données lui-même.
Bien, alors de l'à peu près à l'approximation, enfin on est passé du monde de l'à peu près à un idéal de précision que l'humanité n'a pas réussi, si j'ose dire, à remplir comme projet. Là, on serait plutôt dans des méthodes d'approximation, finalement, plutôt que de l'intuition.
Oui, et si on parle même à une partie standard de la physique en ce moment, qui est la mécanique quantique, on sait que ça pose la question de la mesure. Et la mesure pour des effets de type quantique, on ne la connaît que par amplification d'un effet qu'on voit au niveau microscopique. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de ce qu'on essaie d'observer vers un autre niveau où il nous apparaît à notre conscience même. Il faut qu'il apparaisse dans le monde macroscopique. Mais c'est de l'ordre aussi, je dirais, comment dire, de l'empirique. C'est de l'empirique. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe entre l'effet lui-même et la mesure dans l'instrument de mesure.
Bien, on peut remercier Paul Jorion et l'applaudir.